Vers 1478 avant Jésus-Christ, en Égypte, une cérémonie spéciale se prépare. En effet, toute la cour d'Égypte est rassemblée, les grands prêtres, les grandes prêtresses, et sur un hall conduisant à une salle spéciale d'intronisation, une personnalité est ainsi introduite. C'est une femme, elle est charismatique, elle est puissante. Pendant la cérémonie, une barbe postiche vient lui être greffée sur le menton. Vous avez bien entendu, une femme sur laquelle vient d'être greffée une barbe dite postiche sur le menton. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans l'Afrique contre-attaque. God save the Queen. Ben non, je pousserai pas la petite chansonnette. Je ne vous ferai pas partager ma voix angélique. Je préfère garder ça pour la douche, hein? Bon, revenons à ce qui est sérieux ici. Nous lisions donc 1478 avant Jésus-Christ, en pleine Égypte pharaonique, nouvel empire. L'Égypte vient en fait de sortir d'une grande crise avec l'invasion des Hyksos, que nous verrons bien plus tard. Et la 18e dynastie est intronisée. Plusieurs grands rois viennent régner. Mais il s'avère maintenant qu'une reine prend les commandes du pouvoir, car son mari, appelé Thoutmôsis II, si ma mémoire est très bonne, prend le pouvoir, mais s'éteindra assez rapidement. Il laisse un héritier appelé Thoutmôsis III ou Thoutmôs III, mais ce dernier est beaucoup trop jeune pour assumer les hautes fonctions de l'État. Sa belle-mère, donc Hatshepsut, ne peut que prendre les commandes pendant que le bambin s'initiera petit à petit à l'art de la guerre, aux connaissances égyptiennes, dans les maisons de vie, dans les temples où les connaissances kémites, comme on les appelle, seront enseignées, les arts muntu, comme nous les appelons ici. Alors, Hatshepsut, de son vrai nom, Karama, serait donc le nom de Hatshepsut, s'il faut nous fier aux travaux d'un égyptologue que nous aimons beaucoup, Monsieur Pierre Nilon. Il faut se dire que beaucoup de noms égyptiens que nous connaissons ne sont pas prononcés comme il le faut, ce qui fait que beaucoup de noms doivent être africanisés, c'est-à-dire être pris dans leur contexte africain pour pouvoir en connaître la vraie vocalisation, car nous en avons déjà parlé. Beaucoup de noms africains ou de noms égyptiens sont écrits de manière consonantique, il y a ce qu'on appelle les racines consonantiques, et les voyelles sont ajoutées un peu au pif, un peu au hasard. Ce qui fait qu'il faut remonter aux langues africaines pour pouvoir en connaître les secrets et les tenants et les aboutissants. Donc il y a un travail hors pair qui est fait par des chercheurs comme Dibombarimbok, que nous citons souvent dans ce média, et beaucoup d'autres chercheurs aussi qui piochent dur dans les méandres de l'égyptologie, de leur prononciation, pour en connaître les sens et les significations. Donc nous disions la reine Hatshepsut, que nous appelons Karama, car nous avons déjà dit que les anciens Égyptiens avaient plusieurs noms, hein, au moins cinq comme ça. Le nom de Nesutbiti, le nom d'Horus, et ainsi de suite, le nom de naissance peut-être, et ainsi de suite. Alors, Hatshepsut, car personne au continent africain ne s'appelle Hatshepsut, c'est peut-être un mot assez compliqué à prononcer. Nous l'appellerons donc Karama. Donc, si vous allez sur le net et que vous ne trouvez pas ce nom, mais on nous avait parlé d'une reine qui s'appelait Karama, on la trouve nulle part. Serait-ce Karaba la sorcière de Kirikou? Non, pas du tout, c'est pas Karaba la sorcière, c'est Karama, hein. Donc, Karama. Et Hatshepsut, c'est beaucoup plus connu, donc c'est, attention les oreilles, c'est environ comme quelque chose comme H-A-T, Hatshepsut, donc Chepsut, donc Hatshepsut. De toute façon, si vous tapez reine d'Égypte célèbre, vous la trouverez là, aux côtés de Cléopâtre. Cléopâtre que nous rappelons, qui était une grecque, hein, donc de la dynastie des Lagides, hein, tirée des Ptolémées, donc ce qui fait que c'était pas vraiment forcément une africaine. Mais attention, il se dirait, il se murmurerait dans certains couloirs égyptologiques que sa sœur ou demi-sœur serait Arsinoé IV, et que ces os auraient été retrouvés, qu'ils avaient des traits africains. Ça, on dit assez long, mais il faut se dire que nous savons que déjà à l'époque des Ptolémées, la Grèce, hein, a été une région extrêmement diverse. Il y a eu un profond mélange de cultures. Il n'y a qu'à regarder les fresques que l'on retrouve au niveau de Knossos, au niveau de la Méditerranée, au niveau de l'île de Santorin. Eh bien, tous ces anciens vestiges témoignent de phénotypes qu'on dirait méditerranéen d'un autre, mais sur purement africain aussi, noir, mélanisé, comme on les aime, chocolaté. Donc, et vanillé aussi, on aime la diversité. Donc, donc voilà, vous connaissez le leitmotiv du média, de ce podcast. Nous sommes ici pour rassembler, comprendre l'histoire. Nous sommes dans les stratégies de guerre pour préparer la paix. Vous connaissez notre recette. Nous étudions l'histoire africaine, nous utilisons la trame de la narration afin d'exposer un fait historique épique, mais dans le même temps, nous allons lier cela à l'actualité du moment pour que nous puissions comprendre ce qui se passe, mais en même temps pour pouvoir aussi tirer des leçons de morale, des principes qui ne meurent jamais. Vous savez, les hommes passent, les femmes passent, mais les institutions, les principes restent. Tant que les hommes et les femmes seront sur cette terre, et ben les lois de la moisson et de la semaille ne passeront pas. Et voilà pourquoi nous voulons donc tirer de la nature de l'histoire, qui a en fait un algorithme, c'est-à-dire une succession de lois bien prédéfinies, qui fait qu'en fait nous arrivons au facile constat que il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce que les choses se répètent. Et lorsque nous maîtrisons l'histoire et lorsque nous apprenons de ce qui se passe, eh bien c'est la meilleure façon de pouvoir prédire l'avenir. Voilà pourquoi nous disons que l'histoire est un algorithme. Nous sommes ainsi un peu dans la programmation. C'est quelque chose qui est aussi un peu mon dada. Donc, Hatshepsut, sa vie, son pouvoir, c'est le thème d'aujourd'hui, bien que nous l'avons intitulé God Save the Queen. Pourquoi avons-nous commencé avec cette chanson emblématique qui reflète l'état d'esprit british, british, hein, avec mon accent anglais là, que j'essaye un peu d'inventer là. Eh ben, Hatshepsut a un peu cette même vocation d'avoir un règne illustré par son attachement à Dieu. Son pouvoir sera assis sur la divinité. C'est ainsi qu'elle pourra s'affirmer, c'est ainsi qu'elle pourra placer son règne sous le signe de Dieu, d'Amon, Nzambe. Nous l'avons dit sur la page 27 à 28 du char de Dieu de d'Ibomba Rimbok. Nous avons les différentes variations du nom de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on en dit Nzambe en Afrique centrale, ça vient d'où? On se pose la question, les gens ne savent pas. On dit Nzambe, Nzambe, ça signifie quoi? Ça vient d'où? Eh bien, à la page 27 et 28 du char de Dieu, le d'Ibomba Rimbok, quand même, on nous donne les variations, les translittérations de ce nom, qui est en fait aussi lié tout simplement à Nkolo. Et nous avons dit largement ici que Nkolo, Nkulu, 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 Oro, Ororo, Horus, tout ça c'est la même chose parce que ça renvoie à Niamey, au Niamey. Chez les Akans, par exemple, Niamey, c'est celui qui sait et voit tout. Tout le monde qui voit tout, et eh bien c'est l'aigle, c'est lui qui est au-dessus, qui voit tout, qui est au-dessus de tout, c'est le soleil. Voilà pourquoi dans les représentations du divin à travers l'histoire, vous verrez le soleil, vous verrez l'aigle. Voilà pourquoi vous verrez que les grandes marques de vêtements, les grandes marques, les grandes industries ont pour logo le soleil ou l'aigle. Giorgio Armani, c'est un aigle. Le logo, vous prenez par exemple Versace, bien que c'est la Gorgogne, hein, tête de femme avec des cheveux de serpent. Et je vous rappelle que derrière cette image de la gorgone, c'est tout simplement des Grecs qui ont interprété les dreadlocks des Noirs, des femmes noires. Vous voyez? En voyant ces choses, le sujet européen voit ces choses, eh bien, dans son imaginaire, dans sa psyché. Lui, il va interpréter cela, voyant ses cheveux, ses dreadlocks, c'est bien comme une sorte de bizarrerie, une sorte de monstruosité peut-être, mais qui n'était pas du tout vue ainsi dans le paradigme africain, car on a des pharaons qui portent des dreadlocks, comme si je ne me trompe pas, Amenemhat 1 ou 3, en porte majestueusement des images que l'on montre très peu dans les documentaires égyptologiques. Eh bien, ce genre d'images, donc, vous verrez, comme je disais, sont des logos qui ont été utilisés ou qui sont utilisés maintenant dans la plupart des industries pour marquer la puissance, pour montrer la domination. J'ai parlé tout à l'heure de Giorgio Armani, l'aigle, j'ai parlé de Versace, j'ai dit d'où ça venait, et de beaucoup d'entreprises qui ont pour logo un soleil et des ailes. Beaucoup de marques de vêtements notamment, et beaucoup de marques de véhicules aussi. Regardez bien, faites attention sur les logos. Ici, nous parlons de puissance, de volonté de puissance, nous parlons de pouvoir, de contre-attaque, de manœuvre politique. Eh bien, nous allons ici expliquer ce qu'est le pouvoir. Nous allons ici démontrer, eh bien, mettre à nu les symboles et les ficelles du pouvoir. Et voilà, nous dévoilons par exemple que beaucoup de logos de compagnies, de marques de vêtements, de marques de voitures, d'automobiles. Regardez bien, analysez leur logo, vous verrez le soleil, vous verrez l'aigle, parce que ça montre la puissance. Hein. Et voilà pourquoi, au cours de l'histoire, ces symboles sont restés. Donc, Niamey, par exemple, chez les Akans, on dit celui qui sait et voit tout, et celui qui sait et voit tout qui est au-dessus, c'est l'aigle. Voilà pourquoi déjà, dans la prédynastie, on a Narmer qui, sur la palette de Narmer, que je vous invite à visiter, la palette de Narmer que vous pouvez trouver facilement sur le net, eh bien, on montre déjà le fameux roi le plus puissant sur la terre, qui est l'image du fameux Nimrod dans la Genèse biblique. Eh bien, ce roi est déjà sous le signe de l'aigle. Eh bien, et il faut se rendre compte que ça ne veut pas dire qu'il adore l'aigle. Non, c'est un symbole, un peu comme vous allez voir chez dans la tradition chrétienne, on a l'arche de l'alliance, on a deux individus, deux anges, deux archanges qui ont des anges, des ailes qui se touchent. Ça ne veut pas dire que le fidèle ou croyant se loue ou adore ces entités, divinités ailées que nous rappelons sont tout simplement une image qui existait déjà en Égypte antique, avec l'image de l'Amat, l'image d'Isis, déesse ailée, entité ailée, Netcheru, Ndele, Bendele. On en a parlé abondamment ici, vous savez de quoi je parle, je crois qu'on a déjà, c'est déjà un muscle, hein. Je crois que tout le monde s'y habitue déjà, on peut déjà utiliser ces termes comme si on joue aux billes, hein. Je crois que voilà pourquoi on veut aller lentement, parce qu'ici on va utiliser des concepts le plus qu'on avance dans nos podcasts, et plus on va comme ça jouer avec ces concepts, donc ça va devenir comme de l'eau qu'on boit. Hein, on voit comme ça, voilà, c'est comme jouer avec des billes. Donc plus on avance et plus on va utiliser ces termes-là. Donc il faut déjà s'y habituer, parce qu'après on va aller avec des concepts un peu plus hauts. Et si on n'est pas déjà habitué à ça, et ben on risque d'être perdu. Donc il faut déjà s'habituer à ces concepts là. Donc nous disions que Hatshepsut, durant son intronisation, se fait mettre une barbe sous le menton. Pourquoi? Eh bien, cette barbe est tout simplement le symbole du pouvoir, barbe postiche, barbichette, que l'on retrouve encore même dans certaines tribus africaines, certains clans, certains chefs coutumiers, chefs de village. Les anciens égyptiens comme les anciens africains, où les africains sont souvent imberbes, non, ils ne sont pas imberbes, disons, mais qu'ils ne portent pas souvent la barbe, à moins que ce soit pour manifester le pouvoir. Vous verrez par exemple le masque funéraire de Toutankhamon a cette barbiche-là sur son menton. Et même le sphinx aussi a une barbiche aussi, hein, ce qu'on appelle la barbe postiche, a cette barbe mais elle était détruite. On a retrouvé les vestiges et cette barbe est exposée, si je ne me trompe pas, au British Museum. Donc le sphinx que nous voyons avait une barbe à l'origine, une barbichette, hein, c'est-à-dire la barbichette que vous voyez, une sorte d'espèce de cône que l'on retrouve sous le menton des statues égyptiennes. Et bien cette barbichette là, et bien se retrouve sur le sphinx, elle a malheureusement été brisée, un peu comme le nez du sphinx, et maintenant elle est exposée au niveau du British Museum. Donc Hatshepsut, durant cette cérémonie extraordinaire où elle se fait couronner, non pas comme roi, reine, mais roi, hein, c'est une femme qui se fait couronner comme roi, non pas comme reine, mais roi, nous le disons ici. Eh bien, c'est un phénomène extraordinaire et un peu exceptionnel dans l'histoire égyptienne, car il nous faut rappeler que l'on dit souvent que Hatshepsut est la première reine qui règne en ancienne Égypte, mais ce n'est pas totalement vrai, car avant elle, il y a eu Merneth au niveau de la du 3000 avant Jésus-Christ, donc on est déjà au tout début de l'époque dynastique. Merneth, qui peut être associé aussi, peut être à Netotep, ça peut être le même personnage, ou en tout cas une reine qui a régné en tout cas au niveau de la première dynastie. Et bien plus tard, au niveau du Moyen Empire, je pense, il y a Sobeknefrou qui règne, et aussi Touosret qui règne. Nous rappelons que ces noms sont des prononciations de l'égyptologie classique européenne occidentale, donc ce sont des noms qu'il faudrait africaniser, c'est-à-dire trouver leur origine vraie, afin d'avoir la vraie prononciation de ces noms. Mais bon, faute de mieux, beaucoup de chercheurs sont déjà sur ce travail, sont en train de bêcher ardemment. Mais bon, faute de mieux, nous utilisons ces noms temporairement, avec l'espoir que bientôt, dans nos publications, nous aurons à prononcer ces mots avec l'essence qu'ils ont, car c'est vrai que beaucoup font ce travail maintenant de donner à leurs enfants ces noms ancestraux, ces noms qui ont des significations beaucoup plus telluriques, et voire même cosmiques. Mais il faut se dire que parfois, oui, c'est bien beau de prendre ces noms, mais ce sont des noms qui sont déjà, qui ne sont pas, qui ont été manipulés ou falsifiés ou à tort ou à raison, mais ce sont pas les noms de leur essence. Donc il faudrait peut-être trouver la vraie prononciation. Et c'est trouvable, c'est faisable. Il suffit juste d'étudier les langues africaines et de bien utiliser les hiéroglyphes, comme Pierre Nilon le fait, comme Ibon Barimbok à sa manière. Eh bien, vous verrez que la vérité finit par transparaître et apparaître. Et vous pouvez même voir ces vrais, ces noms ancestraux dans les noms communs que nous avons ici aussi bien dans l'Afrique centrale, qui est dans l'Afrique de l'Ouest, dans l'Afrique de l'Est, ainsi de suite. Donc, nous disions qu'il y a eu déjà une succession de reines qui ont eu à être aux commandes de la Tamérie, de l'Égypte ancienne, mais Hatshepsut, à savoir Karama, innove dans le sens où elle va prendre les reines en tant que roi. Pourquoi? Si l'Égypte ancienne était une civilisation si... On n'utilisera peut-être pas le terme de féministe, parce que c'est un mot qui a un paradigme, qui est né quelque part, suite à certaines raisons. Mais l'Égypte ancienne a une civilisation avec son propre paradigme, matriarcal évidemment, où la femme a une importance primordiale. En Égypte ancienne, dans l'Antiquité, valait mieux être femme en Égypte, à Kemet, à Tamerik, qu'ailleurs, car le statut était beaucoup plus élevé, elles avaient beaucoup plus de droits, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de devoirs. Qui est à leur avantage aussi, hein. Et de ce fait, elles avaient un statut, comme nous l'avons dit, différent. Et nous n'avons pas à dire que c'est féministe, mais du moins c'est un statut qui met l'accent sur la femme, car dans la cosmologie, cosmogonie, vision du monde, pour ne pas dire mythologie, vision du monde africaine ancienne, eh bien la femme est toujours au centre, elle est toujours là, elle est présente aussi bien dans la cour royale de Dieu et aussi bien dans la cour royale du pharaon. Il y a toujours deux femmes à côté du roi, il y a toujours Isis qui est là, il y a toujours Nephthys qui est là, il y a toujours Sekhmet, il y a toujours Bastet. Il y a toujours, voilà, l'image de la femme primordiale, ou même cette image de l'Égypte dont nous avons déjà parlé, avec huit individus et des ou qui sont en train de bêcher. Il y a deux femmes qui sont à l'extrémité du cercle, ou encore dans le temple des pharaons, des dieux. Donc il y a toujours l'image de la femme qui est là, elle est toujours primordiale. Mais alors, pourquoi, si nous avons cette image là et si nous savons que dans l'Égypte méroétique, ou plutôt le Soudan méroétique, l'Éthiopie méroétique, le Soudan, la Nubie méroétique, nous avons ce qu'on appelle les Kandaka, hein, les Kandaka, qui sont cette série de reines qui ont régné. Nous parlerons d'elles aussi, hein, nous parlerons bientôt de ces reines, de ces Kandaka, les Kandas d'Éthiopie, hein, les Kandas dont on parle dans la Bible, dans les livres des Actes des Apôtres, les Kandas, c'est un titre au fait, les Kandaka. Elles ont régné, elles régnaient, et c'était tout à fait normal, il n'y avait pas de problème. C'est pas aujourd'hui, on se dit, ah voilà, on va avoir une femme présidente de la France, des États-Unis, on voit ça comme une révolution, alors qu'en Afrique, il y avait déjà des grandes reines puissantes qui étaient là, donc on a dévancé les autres à bien des manières et bien des saisons. Donc, mais pourquoi Hatshepsut, elle veut d'elle être roi, si le statut de la femme est déjà aussi noble, si elle est déjà admise dans les affaires et dans les hautes sphères de la science? Eh bien, tout simplement parce que comme le roi aussi, le roi ne peut régner sans sa reine, il faut que la reine soit là. Beaucoup d'interprétations sont mises en jeu, mais il faudrait juste comprendre que cette vision du monde africain à l'ancienne, Hatshepsut se présente comme roi, porte une barbe, est perçue comme une sorte de usurpation de pouvoir, car c'est Thoutmôsis III qui devait prendre le pouvoir, son beau-fils, je crois. Mais il était trop jeune pour prendre le pouvoir. C'est lui qui devait le prendre, mais elle le prend. Et elle a été qualifiée d'usurpatrice. Je crois que c'est aller trop vite en besogne, car les prêtres ou peut-être se seraient opposés, mais elle avait le roi, elle était légitime, elle était la femme du roi. Thoutmôsis II était venu de crever, de rejoindre les ancêtres. Eh bien, elle était next in line, comme on dit en anglais, pour régner, pour diriger. Et Elle ne voulait pas être simplement une sorte de régente, laisser les affaires aux différents vizirs, mais elle voulait réellement incarner l'image du roi. Et pour ce faire, elle devait être la fille de Dieu, car elle avait déjà le statut de fille de Dieu, de femme de Dieu, qui était déjà un statut déjà qu'on a donné aux reines et à certaines prêtresses. Mais pour légitimer son pouvoir, commence une campagne où elle se dit être la fille de Dieu. Donc son pouvoir est issu de Dieu. Voilà pourquoi nous commençons ce podcast, cette saga, en disant God save the Queen. C'est Dieu qui sauve cette reine. Pour légitimer son pouvoir, elle doit être la fille de Dieu. C'est Dieu qui sauve son pouvoir. Il n'y a qu'en étant la fille directe de Dieu qu'elle a la capacité de régner, que tout le monde doit s'assujettir et respecter la volonté de Dieu de mettre sa propre fille au trône. Donc, utilisant cette vision divine, elle arrive à régner. Voilà pourquoi dans les temples d'Égypte, eh bien, l'on retrouve tout simplement la saga, la fascinante saga, la fascinante histoire, la fascinante sorte d'immaculée conception que l'on retrouve chez Hatshepsut, où elle est visitée par Djéhouti, c'est-à-dire l'ange messager qui deviendra chez les autres Hermès. Et il se murmure même Gabriel. Mais bon, elle est visitée donc par cette Netcheru, par ce Ndélé, par ce Ndéla, hein, qu'on va qualifier au pluriel par Bendélé et Bandélé, qui sont des drapeaux, hein, en Afrique centrale, mais aussi en Égypte, car Netcheru, c'est trois drapeaux. Bendélé, c'est drapeau en Afrique centrale, au Congo. Et Ndélé, c'est la divinité, le Ndéla, Ndako, Ndélé. Ça veut dire qu'on utilise le Ndélé pour faire des maisons, le toit, la divinité, ce qui est au-dessus. On en a déjà beaucoup à parler ici. Mais vous savez, on doit revenir un peu, ça doit revenir, comme on a dit, on doit savoir dribbler avec ça, c'est un peu comme si on jouait avec des billes, hein. Donc, elle reçoit donc cette énergie, ce Netcheru, ce Ndélé, ce Bendélé, hein, trois drapeaux, Bendélé, c'est le drapeau en Afrique centrale, hein, vous voyez la directe relation entre les trois drapeaux en hiéroglyphe en Égypte et Bendélé, le mot Bendélé en Afrique centrale au Congo, donc vous voyez que c'est la même unité culturelle que nous avons ici. Et donc, elle reçoit cette visite de celui qu'on appelle Thoth, de celui qu'on appelle Djéhouti, qui est représenté par l'oiseau Ibis, hein, et on avait parlé avec le Gabon aussi, qui a le perroquet, qui est l'oiseau, qui est symbole de l'oiseau, hein, que l'on retrouve chez les Pounous, hein, dans beaucoup de cultures d'Afrique centrale, l'oiseau, hein, Bénou, qui va donner plus tard aussi l'oiseau phénix. Mais bon, on s'éloigne un peu, on s'éloigne. Donc, Hatshepsut, dans les temples, reçoit la visite de ce Netcheru, ce Bendélé, ce Ndélé, qui est Djéhouti, et qui va venir dire voilà qu'elle a été choisie par Dieu, et ceci, cela, on parle d'Immaculée Conception, ceci, cela, et elle naît, tout ça. Alors qu'il y a une sorte de genèse divine qui est faite autour d'elle. C'est ainsi donc qu'en mettant en place une cosmogonie, comment dire en anglais, origin story. Hein, une histoire, une origine de ces histoires, de ces racines divines, eh bien, elle légitimait son pouvoir auprès du clergé d'Amon. Amon qui signifie tout simplement Nzambé, comme nous l'avons dit précédemment. Ainsi, son pouvoir est établi, elle est comme homme, elle est femme puissante, elle représente la binarité, permettez-moi ce terme, de Dieu, la pluralité de Dieu. Elle est femme, certes, elle s'assume, elle n'en a pas honte, elle n'a pas honte de sa féminité, elle ne veut pas se faire passer pour un homme, non. Plutôt, elle veut être ce qui est Dieu, c'est-à-dire le symbole des deux, l'homme et la femme, le yin et le yang, qui n'est pas du tout, comme on pourrait le croire, tout simplement le bien et le mal. Ce qui est une conception assez complexe et beaucoup plus profonde, car même lorsqu'on regarde les écrits bibliques, car beaucoup de personnes font considérer Dieu comme une simple unicité, c'est-à-dire un vieil homme, un vieillard, avec sa barbe blanche, longue, assis sur son trône, et c'est comme ça que beaucoup imaginent Dieu. Alors que le concept de Dieu est beaucoup plus complexe que ça, car Dieu n'a pas imaginé la femme parce que Dieu, Adam, s'ennuyait. Non, le concept de féminin n'est pas simplement un concept qui est lié au corps, c'est-à-dire avoir par rapport aux parties féminines visibles ou par rapport tout simplement au caractère féminin de cheveux, de tresses ou de poitrine. Non, la femme, ce n'est pas simplement ce qui est physique. La femme, c'est aussi un esprit. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe que là. C'est une essence, voilà. C'est une essence que l'on veut porter. Maintenant, on ne va pas vouloir ici justifier hein, certains mouvements où voilà, on va se dire, ouais, on est femme, on est homme, tout ça, c'est simplement un état d'esprit. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Bien que la femme vienne avec un corps qui est important, qui est lié à cette personnalité aussi, mais aussi, ça va beaucoup plus loin que ça dans la conception divine. Et non pas quand les hommes veulent essayer de jouer, voilà, on va se transformer en femme, en homme, tout ça, libre aux gens de faire ce qu'ils veulent, mais nous voulons expliquer des symboles tout simplement spirituels. Donc, quand Hatshepsut prend donc cette notion de roi, donc elle veut s'identifier à la divinité, hein? Car, comme je le disais, Dieu, par exemple, dans les livres bibliques, on dit qu'il y a sept esprits de Dieu. Donc, ce qui est assez étrange, on dit, voilà, il y avait les sept esprits de Dieu. Donc, Dieu a sept esprits. Donc, il n'y a pas qu'un, mais il y a sept esprits. Donc, il y a cette pluralité dans l'unicité. Et il y a ce passage qui choque beaucoup de gens, je crois, dans le livre de 1 Samuel, où on dit que Dieu utilise son mauvais esprit pour le donner à Saül pour faire ce qu'il veut. Donc Dieu a un esprit mauvais, donc Dieu a le mal en lui. Vous voyez donc, quand on parle de notion de bien et du mal, beaucoup pensent, oh, le bien, le mal, c'est simplement le contraire du bien. Ah bon? C'est pas si simple que ça, car dans l'Égypte ancienne, on sait qu'on a le concept de Set et d'Horus, et que ces deux concepts sont à utiliser pour l'équilibre de l'univers. On voit le jour, on voit la nuit. Et on dit, dans 1 Samuel, par exemple, pour utiliser les textes bibliques, on dit Dieu utilise son mauvais esprit. Il envoie le mauvais esprit. On ne dit pas qu'il appelle un démon, on dit le mauvais esprit. Et ailleurs, on nous dit les sept esprits de Dieu. Donc, lorsqu'on imagine Dieu juste comme une seule simple unicité et qu'il n'a pas de pluralité, alors qu'il y a une démultiplication de lui, j'espère que vous me suivez encore parce que c'est pas si simple de comprendre tous ces concepts, eh bien, on fait fausse route lorsqu'on croit qu'il est qu'une seule unicité. Il est unique, mais il sait se démultiplier. Voilà pourquoi vous... Quand on regarde les concepts égyptiens, d'énéade, d'octoade, d'unité, qui va se multiplier selon une puissance 2 exposant n, eh bien, on comprend pourquoi l'on parle ailleurs de cet esprit de Dieu, qui a un esprit qui est mauvais, qu'il utilise, qu'on a de pluralité et dans l'unicité. Voilà pourquoi d'autres, vous verrez, bien que si certains ont essayé de faire un certain syncrétisme, on va parler de Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, de Tzidekenu, ainsi de suite. Bien que lorsqu'on explore l'histoire, certains ont voulu faire un syncrétisme, on en a déjà parlé, mais il faut aussi se dire que dans l'image du divin, il y a cette pluralité qui va être dans l'unicité. Il y a un seul Dieu, mais qui peut se manifester de plusieurs manières, dont on voit les sept esprits. Maintenant, évidemment, il faut être très prudent là-dessus, parce que beaucoup maintenant vont dire, ah bon, voilà, chacun, il y a un Dieu pour chaque culture, et chacun peut adorer comme il veut, et on va tous arriver, tout chemin mène à Rome. Là, c'est encore plus délicat parce qu'on va dans un territoire très glissant. Mais nous y reviendrons plus tard. Ici, honneur est à nos dames, honneur est à nos sœurs, à nos mamans, à nos reines, dont nous voulons parler ici par l'image d'Hatshepsut. Elle ne se fait donc pas homme par complexe, mais c'est simplement pour exprimer qu'elle reconnaît le pouvoir masculin et qu'elle veut l'incarner à ses côtés afin de pouvoir régner. Car ne pouvant plus se marier, prendre un autre roi pour régner avec lui, car Thoutmôsis était déjà, comme on dit, next in line, c'était celui qui était déjà prévu pour le régner, eh bien, la reine se doit d'attendre, c'est lui qui est le favori sur le marche du trône de l'Égypte après elle, eh bien, elle ne peut se marier, bien que nous allons parler plus tard de ses amourettes avec un certain Senenmout. Il y aura du piment hein, là dans cette histoire-là. Mais bon, je ne vais pas mettre à charge avant les bœufs, ça viendra. Donc cette histoire sera une saga très épique de Hatshepsut, de Thoutmôsis, de Senenmout. Donc je vous invite vraiment à préparer le pop-corn car ça sera très épique, ça sera très intéressant. Donc voilà, Hatshepsut, donc durant cette cérémonie, d'intronisation, donc est couronné comme roi, reconnaissant le symbole masculin dans le règne de l'Égypte, car la reine, vous savez que l'Égypte c'est les deux terres, hein, bien que c'est les deux territoires, les deux déesses, mais il y a toujours cette binarité, cette pluralité, ce système binaire avec lequel il faut marcher. Eh bien, elle reconnaît le pouvoir masculin. Elle ne va pas venir s'imposer comme disant que voilà, je suis la femme et je vais imposer tout. Non, elle reconnaît sa féminité, elle reconnaît le pouvoir masculin et ces deux vont s'englober justement pour pouvoir manifester la puissance. Elle est donc intronisée comme roi. Dans certaines fresques, elle est représentée comme un homme, mais l'on sait très bien qu'on a affaire à une femme. Ces représentations d'hommes sont une représentation symbolique, tout simplement, du pouvoir, un peu comme plus tard. Akhenaton, lui, va aussi symboliser le pouvoir de manière féminine, hein, en mettant en avant les attributs féminins, bien qu'étant homme. Donc vous voyez qu'il y avait cette espèce d'harmonie dans la civilisation égyptienne de montrer l'homme et la femme, et j'en ai déjà parlé ici, que le pouvoir, que la famille était toujours représentée différemment un peu des autres cultures aux alentours, où on montrait toujours souvent l'homme, culture patriarcale. Mais en Égypte, on voit toujours cette image de la famille, l'homme, la femme, les enfants, l'homme, la femme, les enfants, toujours sur le trône, toujours debout, assis, même niveau. Donc il y a cette image de l'Égypte où l'aspect de l'homme, de la femme est souvent bien représenté. Donc au cours de cette saga d'Hatshepsut, de Toutmosis, de Sénénmout et d'autres personnages encore haut en couleur qui vont venir agrémenter ce récit ô combien fantastique et épique, eh bien nous allons parler de plusieurs sujets, du bien, du mal, nous avons déjà introduit ces concepts ici, mais aussi les stratégies de guerre, vous savez, de la santé, du coronavirus. Beaucoup est à apprendre. Nous avons beaucoup à apprendre encore de cette reine de Hatshepsut, de Toutmosis, qui va se lancer dans une carrière politico-militaire extraordinaire, car ne pouvant régner étant trop jeune, eh bien, beaucoup parleraient qu'il y avait eu une sorte de guerre froide aussi du désert entre ces deux personnages. Toutmosis, qui voulant le pouvoir, ne pouvait pas, même ayant ses 15 ans ou a grandi plus tard, est toujours dans l'ombre d'Hatshepsut, et beaucoup murmurent qu'il y avait une animosité entre ces deux personnages. Est-ce vrai, est-ce faux? Eh bien, nous allons entrer dans les méandres et dans la reconstitution de cette guerre froide qu'il y avait entre ces deux personnages. Mais ce qui est intéressant à savoir ici, c'est que Toutmosis, dans son attente du pouvoir, en attendant son moment, eh bien, ne va pas simplement se plaindre et commencer à gémir de ce qui se passe. Et ça va me permettre d'introduire un petit sujet avant de clôturer, et que très souvent, les populations africaines noires de par le monde se plaignent souvent de ce qui se passe, des attaques qu'il y a contre eux, par rapport à ce qu'on a vu avec la Chine dernièrement, ou encore par rapport à ce que les nations occidentales disent au niveau du contrôle des populations, au niveau de l'Afrique, qui doit être toujours colonisé, et on doit même, voilà, maintenant même se réguler ce qui se passe au-dessous de la ceinture. Bon, bref, vous comprenez. Eh bien, j'ai une attitude un peu différente. Je me dis, qui veut la paix prépare la guerre, et nous sommes ici en situation de guerre. Vous savez, l'Afrique contre-attaque, nous rappelons. Nous devons être dans cette situation un peu comme les sportifs qui ne se plaignent pas lorsqu'on les a battus. Eh bien, ce qu'ils se rendent tout simplement compte qu'il faut être fair play et que les autres sont simplement mieux entraînés que soi. Bien qu'on sait que les autres trichent, mais il faut nous aussi développer nos propres structures, nos propres stratégies de défense, d'attaque et de préparation pour pouvoir s'en sortir. Je vais prendre un exemple concret. LVMH, Louis Vuitton. LVMH, ou le groupe Lagardère, ou je sais pas moi, ou d'autres groupes comme ça, ou de puissance occidentale. LVMH, Louis Vuitton, est une industrie qui est piratée abondamment, surtout au niveau de la Chine, n'est-ce pas? Eh bien, combien d'argent LVMH dépense-t-il, ou Louis Vuitton dépense-t-il, ou Dolce Gabbana, ou tout ce que vous voulez, comme marque, combien dépense-t-il en publicité pour dire voilà, notre marque est piratée par les Chinois, par la Chine ou d'autres pays, ne les achetez pas. Mais combien, au contraire, de publicités connaissez-vous de grandes marques ou de Mercedes? Bon, c'est vrai que les voitures sont un peu moins piratées, mais bon, disons surtout les chaussures. Combien de publicités voyez-vous de Nike qui vient de Nike? Nike qui est la déesse de la victoire grecque. Et on parlera aussi de ses origines africaines. Hein? On a déjà parlé d'Artemis, Artemisia ici. Nous parlerons aussi de Nike, d'où est-ce qu'elle vient. Hein? Combien de publicités font-ils sur les chaussures piratées dans le marché étranger? Vous connaissez tous les publicités de Nike ou Nike, comme on dit ici aux États-Unis, axées sur leurs produits, leur qualité, sur leur force, pour que les gens puissent acheter. Et vous verrez que beaucoup, lorsque des nouvelles chaussures de LeBron James, de Michael Jordan les sortent, parce qu'ils sont en coopération, eh bien, les gens s'alignent pour pouvoir acheter ces marques, surtout dans les pays développés, ni développés, même si ça coûte les yeux de la tête. Eh bien, c'est le même esprit que nous devons avoir. Ayant la connaissance, nous devons nous focaliser sur ce que nous savons faire. Mais malheureusement, nous nous rendons compte que dans les réseaux sociaux, dans les sites dits Kemet, car ceux qui s'intéressent ou découvrent ces choses vont certainement vouloir en savoir plus, vont certainement aller dans les réseaux sociaux pour pouvoir rejoindre des groupes qui parlent de ces choses. Eh bien, vous vous rendrez compte que très souvent, ce sont des groupes où l'on ne fait que jeter des pierres aux autres religions. On ne fait que critiquer les autres ou se plaindre que voilà ce que l'Europe fait contre nous, voilà ce que l'Amérique fait contre nous. Mais qu'est-ce que vous vous faites avec ce contenu, ce puits de science que vous avez? Ben, créez vos propres structures, créez vos propres marques. Créez vos propres entreprises, créez vos propres systèmes philosophiques, vos propres écoles, où les gens vont venir payer, acheter, ce sera des modèles économiques, et voilà, les gens seront mieux nantis. Au lieu de passer le temps à critiquer les autres, c'est vrai qu'il faut apprendre les stratégies des autres, mais il faut aussi créer les siennes, comme je l'ai dit, comme Nike, comme Reebok, comme Adidas, comme LVMH, Louis Vuitton, Dolce Gabbana et les autres, ces marques que nous chérissons bien, à la place des marques typiquement africaines, eh bien, ces marques dépensent en publicité dans les médias pour leurs propres produits, pour que leurs produits soient connus. Ils savent qu'il y a la concurrence déloyale et la piraterie de leurs produits, mais ils l'en font. Guère attention. Oui, évidemment, ils financent des campagnes pour pouvoir, comment dire, des campagnes silencieuses, pour pouvoir, ou se plaignent au niveau des pouvoirs publics, car une compagnie comme Apple aussi fait des lawsuits, c'est-à-dire attaque en justice quand ses brevets sont violés. Mais ils font beaucoup plus de bruit lorsqu'ils lancent des produits que du bruit lorsqu'ils font, ils attaquent un concurrent en justice. Lorsqu'ils vont lancer un produit, ils vont appeler la presse, ils vont dévoiler leurs produits. Mais quand ils attaquent en justice, eh bien, ils vont juste faire ce qu'on appelle une press release. Ils vont juste, voilà, dire que voilà, on a attaqué en justice, c'est fini, un email, ça va. Mais quand il faut lancer leurs produits, c'est toute une salle qu'on va louer, c'est toute une presse qu'on va inviter et c'est tout un produit qu'on va lancer. Mais quand il s'agit d'attaquer en justice, on va simplement faire un communiqué, c'est fini. Mais nous, maintenant, notre campagne, c'est la plainte. Ah, voilà ce qu'eux ont fait. Voilà ce que les Occidentaux ont fait. Ah, ils sont mauvais. Ah, ils sont méchants. Et on se partage ces choses dans les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Facebook, dans tout. Ce n'est pas sain d'en faire un cheval de bataille. On peut le faire une, deux fois, mais non. Il faut s'armer de science jusqu'aux dents. Il faut s'armer de stratégie jusqu'aux dents. Et il faut surtout lancer des initiatives. Ça va pas marcher du premier coup. Ça va échouer une fois, deux fois, trois fois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf fois. Et la dixième fois, peut-être, ça va marcher. C'est dans cet état d'esprit que nous devons être. Et c'est dans cet état d'esprit que Thoutmose III était. Il n'a pas passé son temps à se plaindre que voilà, comme tous les égyptologues, certains égyptologues veulent dire que, oh, voilà, cette femme m'a usurpé mon pouvoir. Certainement, il y avait de la frustration. Il voulait régner. Il s'est jeté dans le travail. On va en parler, beaucoup au cours des prochains épisodes. Mais il s'est d'abord jeté dans le travail. Il a appris l'art de la guerre. Qu'est-ce que je peux faire? Il a appris l'art de la guerre. Comment devenir un grand guerrier? Car Thoutmose III, eh bien, deviendra ce grand guerrier, plus tard. Et c'est ce que nous devons faire. Et c'est la vocation de l'Afrique contre-attaque, pour ceux qui nous découvrent ici, c'est d'avoir ces stratégies, c'est de comprendre comment on résout les problèmes, comment on attaque, comment on contre-attaque. On a dit, les livres de Robert Greene vont nous aider beaucoup, stratégie du pouvoir, les 48 lois du pouvoir, les 33 stratégies de la guerre, l'art de la séduction, et j'en passe, les lois de relations humaines, nous aideront tout au long de cette page. Eh bien, j'espère que cette page vous a plu. Merci beaucoup. Bye bye. À plus!